Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 6. Comment raconter la nuit qui s'écoula pour Henriette dans la solitude de cette chambre d'hôtel? Comment dire par quelle torture de l'âme passa l'infortunée aux prises pendant de longues heures d'insomnie avec cette idée fixe qu'elle ne reverrait plus sa Louise, sa compagne bien-aimée, à tout jamais perdue pour elle? Quelles expressions trouver qui soient assez saisissantes pour peindre ce désespoir, ces larmes impuissantes à éteindre l'exaltation du cerveau, ces agitations de l'esprit, cet effarement des idées et ces angoisses du cœur succédant aux sanglots? Comment se fait-il que la nature humaine, dont un atome a si souvent raison, puisse résister parfois aux secousses les plus violentes, aux chocs les plus redoutables? Comment la raison de cet affligé put-elle résister à la douleur arrivée à son paroxysme? Comment cette âme si impressionnable ne s'envola-t-elle pas au milieu de cette nuit d'agonie? L'aube trouva la malheureuse agenouillée, les yeux brûlants de fièvre, les lèvres tremblantes, balbutiant pour la millième fois la même prière. Mais avec le jour naissant, une lueur d'espérance ressuscita dans son cœur. Son corps anéanti sembla se ranimer pour de nouvelles fatigues. Elle se trouva prête à suivre celui qui allait revenir. Alors seulement, dans cet apaisement obtenu à grand effort, elle réfléchit pour la première fois à ce que la conduite du gentilhomme, que le hasard lui avait fait rencontrer dans un moment de péril extrême, avait de généreux. Dans son trouble, dans le désarroi de sa raison, elle lui avait adressé, pensait-elle, des remerciements banals, des témoignages de reconnaissance qui restaient bien au-dessous des services rendus. Et maintenant, il lui tardait de revoir ce protecteur improvisé pour laisser déborder de son cœur toute la gratitude qui l'emplissait. Il lui tardait d'apprendre le nom de son sauveur pour le mêler, dans ses prières, à ceux des êtres qui lui étaient chers. Et cette préoccupation nouvelle pour son esprit fit diversion aux agitations de la nuit. Henriette attendit Roger comme si, avec son retour, devait renaître en elle l'espérance. Le chevalier de Vaudrey attendait de son côté le moment de se rendre auprès de sa protégée. L'esprit tendu vers ce but, il avait exclu de sa pensée tous les mauvais souvenirs de la soirée passée au pavillon du Bel Air. Dans l'exaltation qu'entretenait en son esprit le souvenir d'Henriette, il en était arrivé à considérer le résultat de son duel avec le marquis de Presles comme le châtiment que la Providence avait réservé à ce débauché. Vainement, il avait essayé de retrouver le calme. Sa pensée s'envolait, malgré lui, vers celle qu'il avait laissée plonger dans le désespoir. Maintenant qu'il n'était plus sous l'influence de cette douleur qui l'avait si profondément troublé, il trouvait dans son cœur des formules de consolation, des paroles émues à l'adresse de celle qui souffrait. Et dans l'exaltation de son esprit, il se surprenait à dire tout haut ses projets, ses désirs, ses espérances. Il s'écriait, comme si Henriette eût pu l'entendre, « Je ne vous abandonnerai pas, pauvre enfant, à votre mortelle douleur. Je ne négligerai ni les démarches, ni les fatigues, pour rendre le sourire à vos lèvres que j'ai vues frémissantes et pâlies, pour que le bonheur brille de nouveau dans vos yeux, dans ces yeux que j'ai vus, tour à tour, brûlant de fièvre et voilés de larmes, ardents sous le feu de l'espérance et s'éteignant à chaque déception nouvelle. Pour trouver celle qui doit rendre la joie à votre âme, celle qui vous fera oublier vos souffrances et vos larmes, nul obstacle ne m'arrêtera. Dussé-je fouiller Paris dans ses plus mystérieux repères, je vous rendrai votre sœur. » Puis, envisageant plus froidement la situation, Roger récapitulait les moyens dont il pourrait user pour découvrir l'asile de la jeune aveugle. S'ouvrirait-il à son oncle, le lieutenant général de police? Ne trouverait-il pas dans ce cas Monsieur de Lignières, déjà mis au courant des événements du pavillon du Bel Air et irrité contre lui? Oserait-il lui parler d'Henriette? Alors il se souvenait de cette autre affligée, de cette comtesse de Lignières, si compatissante et dont l'affection tendre et dévouée lui était acquise. Et il concluait que ce serait à Diane de Vaudrey qu'il se confierait et demanderait conseil avant d'avoir recours à l'influence du comte de Lignières. Le jour parut enfin, et Roger, tenaillé par le désir de retourner auprès de la jeune fille, se rendit à l'hôtel qu'elle habitait. Pourquoi son cœur battait-il si fort au moment où il arrivait devant cette maison? Pourquoi, au lieu de frapper tout de suite à la porte de la chambre d'Henriette, demeura-t-il haletant, indécis, comme s'il eût eu besoin de se donner du courage et une contenance plus calme? S'il n'avait été animé que du désir d'être utile à sa protégée, pourquoi ce trouble qui l'agitait? C'est qu'à ce sentiment de pitié que les malheurs d'Henriette avaient fait naître en lui, se mêlait un sentiment nouveau, plus puissant, plus impérieux et plus tendre. Au moment de pénétrer auprès de la jeune fille, il hésita, comme si, tout étonné de cette vive sympathie pour une inconnue, il eût voulu se rappeler lui-même à la raison. Mais il lui sembla entendre comme un sourd gémissement, comme un bruit de sanglots, qui partait de cette chambre, et tous les raisonnements s'envolèrent aussitôt. Il frappa timidement. Moins d'une seconde après, la porte s'ouvrait. Elle s'ouvrait comme si Henriette se fût tenue derrière, attendant avec anxiété l'arrivée de Roger. La jeune fille lui apparut transfigurée par cette nuit de larmes et de prières. Elle lui tendit la main et silencieusement elle le conduisit auprès du siège où elle avait passé la nuit tout habillée. Roger s'assit à cette place qu'avait occupée Henriette. Il appuya la tête sur cette étoffe du dossier où la jeune fille avait posé sa tête. Il plaça ses mains fiévreuses sur ses deux bras de fauteuil qu'avaient touchées, frémissantes, les mains d'Henriette. Et pendant ce temps, il la regardait, debout, devant lui, les yeux baissés, immobiles et tremblantes. Sa bouche demeurait muette, alors que sur ses lèvres se pressaient des paroles de reconnaissance. « Je vous avais promis de revenir me mettre à votre service, » dit Roger. « Me voici, mademoiselle. Il ne dépendra pas de moi, je vous le jure, que nous réussissions bientôt dans nos recherches. » Ces paroles, qui résonnaient doucement à l'oreille d'Henriette, rendirent l'espérance à son cœur. « Je suis prête, » dit-elle. Ils partirent aussitôt, et alors commença une nouvelle course à travers les quartiers de Paris. Course stérile qui devait laisser la jeune fille découragée et anéantie, et devait exciter plus énergiquement encore le chevalier à se consacrer tout entier au service de la jeune fille. Pendant cette première journée s'accrut encore leur mutuelle sympathie. C'est surtout dans le malheur que l'intimité grandit rapidement. Les heures s'écoulaient. Roger, sans rencontrer de résistance chez sa protégée, fit consentir celle-ci à prendre quelque repos après tant de fatigues successives. Henriette obéissait maintenant au moindre de ses conseils. Elle se laissait guider aveuglément et subissait sans hésiter l'influence de ce guide que la Providence semblait lui avoir envoyé. Roger avait fait comprendre à sa compagne que pour la continuation de leurs recherches, il fallait retrouver des forces contre la fatigue, de l'énergie contre l'abattement. Henriette éprouvait la réaction inévitable en pareil cas. Il semblait que, subjuguée par la confiance que lui inspirait son protecteur, elle eût refoulé sa douleur au fond de son âme. Son visage perdit l'expression d'angoisse pour s'empreindre d'une tristesse plus douce. L'effarement fit place dans ses yeux à une touchante mélancolie. Roger s'aperçut de ce changement et en éprouva comme un soulagement à ses propres inquiétudes. Ne savait-il pas, en effet, que la tâche qu'il s'était imposée menaçait de se prolonger et qu'il faudrait probablement bien des jours et bien des efforts pour retrouver l'aveugle? Il soupçonnait, hélas, que la pauvre enfant avait dû être victime de quelque terrible aventure dans ce Paris peuplé de malfaiteurs. Mais comment faire prendre patience à cet autre infortuné qui, de son côté, n'avait échappé au déshonneur que par miracle? Comment dire la vérité à cette désespérée qui subissait en ce moment l'effet d'une accalmie, après laquelle il y avait à redouter un retour violent à la douleur? Cette seconde partie de sa tâche était, pensait le chevalier, de beaucoup la plus difficile. Enfin, prenant une ferme résolution et s'armant de courage, « Mademoiselle, dit-il, je bénis la Providence qui vous donne une foi si absolue en mon dévouement. C'est pour moi la certitude que vous saurez maîtriser ces terribles accès de désespoir qui se sont manifestés en vous depuis hier. C'est pour moi l'assurance que vous me faciliterez autant que possible la mission que je me suis imposée et à laquelle, je vous jure de nouveau, je ne faillirai pas. « Oh, parlez, monsieur !» s'écria Henriette. « Parlez, que faut-il que je fasse pour cela ? Il faut que vous acceptiez de moi le conseil de mettre un terme à cette vie errante qui torture votre âme, qui épuise vos forces. Il faut que vous me laissiez libre de continuer seule mes recherches et de les mener à bonne fin. Jusqu'à ce que j'aie été assez heureux pour retrouver votre sœur, vous habiterez la maison d'une femme honorable que je connais de longue date et dont vous paierez l'hospitalité par votre travail. Le travail, oh oui, répondit vivement Henriette, c'est à lui que je puis demander le courage d'attendre, pendant de longs jours peut-être, de revoir ma pauvre Louise. Le chevalier voulut profiter de ses bonnes dispositions d'esprit, et quelques instants après, ils montaient tous deux dans un carrosse de place. La distance à parcourir sera un peu longue, dit le chevalier. Une fois dans le véhicule et l'adresse donnée au cocher, Roger entama la conversation devenue indispensable. Il s'agissait pour lui de présenter Henriette comme locataire à une dame veuve très recommandable que la mort de son mari avait obligée à chercher dans un commerce de lingerie les ressources qui lui avaient subitement fait défaut. Madame d'Hervigny, c'était le nom de cette dame, n'acceptait que des ouvrières dont la moralité lui était connue ou garantie par des personnes recommandables. Voici de quelle façon le chevalier de Vaudrey avait fait la connaissance de cette dame. Elle sous-louait, dans la maison qu'elle occupait, quelques chambres à des gens de province qui venaient séjourner pendant quelque temps à Paris. Un des amis de Roger ayant été le locataire de la dite dame, le chevalier de Vaudrey avait, depuis, envoyé du monde à cette honnête femme. Il avait promis en outre de lui procurer, lorsqu'il pourrait le faire, la pratique de la comtesse de Lignières. On comprend dès lors que Roger était toujours le bienvenu chez madame d'Hervigny. Mais lorsqu'il s'y présenta, accompagné d'une jeune fille, ce fut pour la modiste une cause de véritable stupéfaction. Elle allait, évidemment, formuler son hésitation ou son refus, lorsque Roger, qui comprenait à quelle réflexion se livrait la bonne dame, prit la parole. « Madame d'Hervigny, dit-il d'un ton grave, j'ai l'honneur de vous présenter mademoiselle Henriette Gérard, pour laquelle je vous demande une chambre et de l'ouvrage. « Oh, je sais bien travailler, madame, s'empressa d'ajouter la jeune fille. Vous en jugerez. « Ce que je voudrais d'abord savoir, mademoiselle, répondit madame d'Hervigny, c'est de quelle façon monsieur le chevalier a fait votre rencontre ? Ce fut encore Roger qui se chargea de la réponse. Il fit à madame d'Hervigny une narration, non pas complète, mais suffisante, des douloureuses aventures survenues à Henriette. C'était une bonne âme dans toute l'acceptation du mot que cette madame d'Hervigny. Elle s'apitoya sur le sort de cette pauvre enfant aveugle, perdue dans Paris, et que sa cécité mettait à la merci du premier misérable venu. Finalement, elle promit à Henriette de non seulement lui louer une petite chambre qui était disponible, mais encore de ne jamais la laisser manquer d'ouvrage. Puis, se tournant vers Roger, « Je vous remercie, monsieur le chevalier, dit-elle, d'avoir pensé à moi pour… » « Pour une bonne action, acheva Roger à mi-voix. « Allons, mon enfant, conclut la modiste en ouvrant la porte, je vais vous conduire tout de suite dans votre logement. » Et précédant Henriette, elle se mit à gravir les marches de pierre qui conduisaient jusqu'au troisième étage. Le chevalier de Vaudrey les suivait. À partir du troisième étage, l'escalier, moins large, était en bois. Au bout d'un couloir se trouvait la chambre qui allait être celle d'Henriette. « Ce n'est pas luxueux, fit en souriant madame d'Hervigny, mais vous ne serez pas incommodée par les voisins. Vous êtes seule ici. » Elle avait ouvert la porte. La chambre était en ce moment éclairée par le jour pâle arrivant par une fenêtre à droite donnant sur des jardins. Pendant l'été, les oiseaux devaient assurément donner de joyeuses matinées musicales sur les branches qui touchaient presque la fenêtre, tandis qu'en hiver, les indiscrets moineaux venaient, ce n'était pas douteux, piailler la faim sur le rebord de la croisée. Le mobilier était des plus simples. À gauche, dans un petit enfoncement qui pouvait presque passer pour une alcôve, le lit en bois, peint en blanc, avec des filets bleus de ciel, était en partie masqué par des rideaux de toile ornés de fleurs sur fond saumon tendre. À droite, la cheminée sur laquelle se trouvait une lampe séparant deux amoureux en porcelaine qui s'envoyaient, en dépit de cet obstacle, des baisers du bout de leurs doigts peinturlurés. Trois chaises de paille et une petite table complétaient cet ameublement d'ouvrière. Il y a bien longtemps que j'attendais pour louer cette petite chambrette. Il me déplaisait d'y mettre un homme qui eût tant fumé les rideaux, car on fume maintenant d'une façon révoltante, continua la modiste. Aussi, ajouta-t-elle, je suis enchantée de vous avoir pour locataire, mon enfant. » Et saluant le chevalier, elle se retira. Roger alla aussitôt fermer la porte et s'avançant la tête découverte devant la jeune fille. « Vous voudrez bien, mademoiselle, lui dit-il timidement, me permettre de vous faire les avances indispensables. En acceptant mon offre, vous me prouverez que vous me jugez digne du rôle que je vais remplir désormais. Car, fit-il avec feu, je ferai pour retrouver votre pauvre sœur aveugle tout ce qu'il sera humainement possible de faire. Et moi, dit Henriette avec un geste de désespoir, je serai condamnée à attendre que le succès ait couronné mes efforts. Et chaque jour, je viendrai vous mettre au courant de ce que j'aurai fait, de mes déceptions ou de mes espérances. Je viendrai enfin, ajouta-t-il à voix basse, puiser de nouvelles idées et des forces nouvelles auprès de vous. Et quelque chose me dit intérieurement que je réussirai, qu'un jour je frapperai à cette porte pour mettre dans vos bras celle que vous avez déjà tant pleurée. Transporté par l'espoir qui débordait de son cœur, Roger de Vaudrey s'était emparé de la main que lui tendait Henriette. Et serrant cette main dans la sienne, il salua la jeune fille qui était demeurée tremblante et abandonnait sans s'en apercevoir sa main à l'étreinte de Roger. Il semblait maintenant qu'il ne fût plus pressé de partir et qu'elle éprouva une secrète et indéfinissable émotion à le retenir. Mais tout à coup, la jeune fille s'était souvenue de celle qui, elle, hélas, n'avait probablement pas rencontré un secours aussi providentiel. Elle n'eut pas besoin de formuler sa pensée. Roger avait tout compris au seul regard qu'elle lui adressait. « Ayez confiance, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Maintenant que je vous sais à l'abri de tout danger, je vais fouiller Paris dans ses quartiers les plus éloignés et les plus sombres. Maintenant, j'accomplirai mon devoir, jusqu'au bout. » Et voulant éviter le remerciement qu'il sentait suspendu aux lèvres de la jeune fille, le chevalier de Vaudrey s'éloigna précipitamment. En passant devant l'appartement de Madame d'Hervigny, il aperçut cette dame qui l'attendait. « Faites-moi l'honneur d'entrer, monsieur le chevalier, » dit-elle. « Je vous serai bien obligée de m'accorder quelques minutes d'entretien. » Roger accepta d'autant plus volontiers qu'il éprouvait le besoin de recommander de nouveau sa protégée. Il ne devait pas tarder à s'applaudir d'avoir eu cette pensée. Au premier mot de Madame d'Hervigny, il avait compris que la lingère s'était quelque peu effarouchée à l'idée des visites que, sans doute, monsieur de Vaudrey allait rendre à sa nouvelle locataire. Il s'agissait donc de s'expliquer franchement. Roger n'hésita pas à déclarer qu'effectivement, il aurait ses entrées à toute heure. « Du jour, » ajouta-t-il avec intention, chez l'ouvrière de Madame d'Hervigny. « Je ne puis vous convaincre de l'entière pureté de mes intentions, » avait-il dit à son interlocutrice. « Je lis sur votre visage que vous soupçonnez de ma part quelque amoureuse aventure que je désirerais mener discrètement. »« Il n'en est rien, madame, » ajouta le chevalier, soutenant avec une certaine hauteur le regard scrutateur de la modiste. « Et vous n'aurez plus le droit de douter, je pense, » lorsque je vous aurai donné ma parole de gentilhomme. » Madame d'Hervigny s'inclina en signe de respect. « S'il en est ainsi, dit-elle, je dois évidemment chasser les soupçons qui, je l'avoue, agitaient mon esprit. Je vous remercie de me croire sur parole d'honneur, fit Roger d'un ton légèrement ironique. Il paraît que je ne pouvais, à meilleur compte, acquérir votre confiance. » Satisfait toutefois de la tournure qu'avait prise l'affaire, et clôtura cette première partie de la conversation par un sourire qui amnistiait Madame d'Hervigny des mauvaises pensées qu'elle avait accueillies avec trop de facilité. Mais la modiste ne s'en tint pas là. « Vous avez bien voulu répondre pour ma locataire, » dit-elle. « C'est fort bien. Je veux moi aussi faire quelque chose pour elle. Son infortune est assez grande pour que nous soyons deux à y remédier, dans la mesure du possible. Que prétendez-vous faire ? « Donnez d'abord de l'ouvrage, le meilleur que j'aurai, à votre protégé. Et, comme je suppose qu'arrivée depuis si peu de temps à Paris, elle ne doit pas être encore au courant des moyens les plus simples de pourvoir à ses besoins de chaque jour, je me chargerai de la recevoir également comme pensionnaire, et je me paierai de ses dépenses par le travail que je confierai à cette jeune fille. » Puis, regardant le chevalier, « Et cela durera... jusqu'à ce qu'ayant retrouvé la personne qu'elle vous a prié de chercher, mademoiselle Henriette retourne à Évreux, je crois. » Roger avait écouté, un peu machinalement, Mais au mot d'Évreux, le jeune homme sursauta comme si ce mot l'eût subitement arraché à une profonde rêverie. Il prit aussitôt congé de madame d'Hervigny. Nous laisserons le chevalier de Vaudrey se mettre résolument à la recherche de l'aveugle. Ses fatigues n'étaient pas prêtes, disons-le tout de suite, d'être couronnées de succès. Et bien des désillusions étaient encore réservées à la pauvre Henriette. À peine venait-elle de saluer le chevalier, qui avait rapidement descendu l'escalier, que madame d'Hervigny fit un paquet d'ouvrages qu'elle apporta elle-même à l'ouvrière. En trouvant Henriette assise et le front appuyé dans ses mains, auprès de la croisée, la couturière hocha tristement la tête en disant « Voici un peu d'ouvrage pour vous aider à chasser votre mélancolie, mademoiselle. » Henriette s'était aussitôt levée et venait au-devant de sa nouvelle patronne. « Que vous êtes bonne, madame, dit-elle, d'avoir pris la peine. Eh, mais ce n'est encore que la première fois, interrompit madame d'Hervigny. Il faudra bien que je vous mette au courant de nos habitudes. » Elle avait pris une chaise et étalait sur la table le paquet d'étoffes. « Voici un corsage à faire, dit-elle. C'est bien, madame. Vous connaissez un peu le métier? Oui, madame, mais j'aurai néanmoins recours à vos conseils. Je suis à votre disposition. Du reste, je vais vous dire tout de suite comment j'entends que cela soit fait. » Henriette prêtant la plus grande attention, madame d'Hervigny était alors entrée dans une foule de détails techniques, parlant avec une grande volubilité, ce qui, dans la circonstance, était évidemment une façon de faire valoir son talent de grande couturière. Elle s'installa pendant plus d'une heure à côté de son ouvrière, sous prétexte de la guider pour la mise en train de l'ouvrage. Mais en réalité, madame d'Hervigny interrogeait, incidemment, la jeune fille sur une foule de choses qui la concernaient. Henriette avait l'esprit trop troublé pour s'apercevoir de l'adresse que déployait la dame dans cet interrogatoire qu'elle lui faisait subir. Elle répondait de la meilleure grâce du monde, disant la vie qu'elle avait menée à Évreux depuis la mort des époux Gérard. Elle s'attendrit, en parlant de sa tendresse pour Louise, à ce point que madame d'Hervigny lui dit avec une certaine émotion « Ne perdez pas espoir, mon enfant. Dieu ne s'est pas détourné de vous, puisqu'il vous a envoyé un protecteur tel que le chevalier de Vaudrey. Monsieur Roger est allié à un personnage tout-puissant et qui jouit de la confiance de sa majesté. » Puis, comme si elle eût eu le sentiment d'avoir, en parlant de la famille du chevalier, dépassé les bornes des confidences permises, madame d'Hervigny ne voulut pas nommer le comte de Lignières. Par une transition habile, elle ramena la conversation sur le chapitre de Roger. Mais où la Providence a voulu vous accorder une preuve de sa sollicitude, c'est en vous donnant pour protecteur, pour soutien, un homme dont la réputation d'honneur et de loyauté est universellement reconnue. Monsieur le chevalier de Vaudrey est aussi noble de cœur que de naissance, et la pureté de ses mœurs, l'élévation de son âme, font de lui un des gentilshommes les plus accomplis de ce temps. Ces paroles résonnèrent-elles agréablement aux oreilles d'Henriette? Toujours est-il que la jeune fille baissa les yeux, peut-être pour ne pas laisser voir l'expression de son regard, à celle qui faisait un si brillant éloge du chevalier. Et son cœur battit avec plus de précipitation. Elle éprouvait une douce émotion qu'elle ne s'expliquait pas, une impression de calme et de soulagement qui l'envahissait en dépit de ses appréhensions toujours si vives. Elle écouta donc, aussi longtemps que madame d'Hervigny voulut bien continuer, la conversation sur le même sujet. Elle écoutait encore lorsque la couturière leva la séance, ayant achevé le bout d'ouvrage qu'elle avait voulu laisser comme modèle à l'ouvrière. Henriette reconduisit sa patronne jusqu'au seuil de sa chambre, et la porte refermée, elle vint reprendre sa place à la table de travail. Et là, l'aiguille en main, elle se remit à l'œuvre avec une sorte de précipitation fébrile. On eût dit qu'elle voulait repousser de son esprit les souvenirs attristants et se livrer tout entière à l'espérance. Elle avait maintenant une foi absolue dans le succès des démarches qu'allait entreprendre son protecteur. Mais lorsque les heures se furent écoulées et que le crépuscule eut enveloppé les grands arbres des jardins du voisinage d'un long voile de brume, Henriette se surprit à désirer ardemment le retour du chevalier. L'inquiétude aidant, elle était allée déjà par deux fois se pencher sur la rampe de l'escalier. Le courage qu'elle s'était imposé faisait place au transe mortel. La perspective de passer encore cette nuit sans savoir ce qu'était devenue Louise l'épouvantait, et l'énergie qui l'avait soutenu jusque-là, s'évanouissait de nouveau. Enfin, lorsqu'eut sonné l'heure après laquelle il lui fallait désespérer de revoir son protecteur ce jour-là, Henriette retomba dans une sombre tristesse. Elle n'était cependant qu'au début d'une longue série d'épreuves. Elle devait passer par bien d'autres désillusions et voir s'écouler bien des heures pendant lesquelles elle dévorerait ses larmes, étoufferait ses sanglots, prierait et se lamenterait. Que de fois Roger, toujours attendu avec la même impatience, devait reparaître, triste, le front soucieux, et lui dire qu'il n'avait point encore réussi dans ses recherches, mais qu'il les recommencerait le lendemain, avec la même ardeur, avec le même espoir. Que de fois encore, après le départ du chevalier, Henriette devait s'imposer un travail forcé, afin que la fatigue amenât à la longue le sommeil qui fuyait ses yeux brûlés par les larmes. Elle se raidissait contre la souffrance, soutenue par la pensée qu'elle reverrait Louise. Elle s'imposait comme un devoir de vivre pour cette infortunée qui n'avait dans le monde d'autre soutien qu'elle. Et cette idée s'était à ce point enracinée dans son esprit qu'au bout de quelque temps, alors que Roger continuait d'infructueuses démarches sans cesse renouvelées, Henriette en était arrivée à se faire à ce genre de vie, partagée entre l'espoir de retrouver sa sœur et le désir de revoir Roger. Elle travaillait avec une constance et une ardeur qui lui avaient mérité les félicitations de la couturière. Un mois s'était écoulé, sans apporter de changement à la situation, sans provoquer de découragement chez le chevalier de Vaudrey. Lui aussi avait contracté, comme un besoin, l'habitude de venir chaque jour rendre compte à Henriette de ses efforts et de ses espérances. Peu à peu, il s'était attardé plus longtemps dans la conversation échangée avec la jeune fille. Il ne la quittait plus qu'à regret. Les gens du voisinage en étaient arrivés à s'étonner de ces visites renouvelées jusqu'à 2 et 3 fois par jour. Les commérages allaient déjà leur train dans le quartier. Des propos malsonnants étaient même arrivés jusqu'aux oreilles de Madame d'Hervigny. La médisance s'accentuant davantage, la couturière finit par s'en émouvoir. Néanmoins, elle ne dit rien à Henriette. Elle se fut trouvée en contradiction trop flagrante avec elle-même, qui avait si hautement vanté le chevalier, incapable, disait-elle, non seulement d'une méchante action, mais même d'une pensée mauvaise. Elle se renferma dans une prudente réserve, mais elle interrompit les fréquentes visites qu'elle faisait à sa locataire. Bientôt, elle affecta de ne plus se trouver sur le passage du chevalier lorsque celui-ci montait pour aller frapper à la porte de l'ouvrière. Roger était sous le coup de préoccupations trop vives pour s'apercevoir de ce qui se passait. Son cœur avait, en 3 mois, franchi toute la distance qui séparait un gentilhomme de son rang d'une petite bourgeoise sans naissance et sans fortune. Il s'était tenu 1000 raisonnements plus stériles les uns que les autres pour en arriver à s'avouer l'amour passionné que lui inspirait Henriette. Et c'est pendant que cette métamorphose s'opérait en lui que le chevalier de Vaudrey était circonvenu par son oncle pour qu'il se soumît aux volontés du roi. C'est lorsque son cœur était plein d'une image adorée qu'on venait lui parler d'un mariage de convenance. Pour faire plier ce qu'il considérait comme une simple fantaisie, le comte de Lignières avait employé, ainsi qu'on l'a vu, tous les moyens pacifiques. On sait qu'il essaya même de faire intervenir la comtesse et que finalement, il avait déclaré la guerre ouverte entre lui et son neveu. Pour se risquer dans une lutte contre l'homme puissant et le parent sévère qu'était le comte de Lignières, il avait fallu que le chevalier eût acquis la certitude, par une expérience de 3 mois d'assiduité auprès d'Henriette, que désormais rien ne pourrait détourner sa pensée et son cœur de cette infortunée. Il reconnaissait son impuissance, quoi qu'il pût faire, à mettre un terme au désespoir qui minerait lentement la jeune fille, à partir du jour où celle-ci aurait perdu tout espoir d'être réunie à Louise. Mais il se disait que son amour parviendrait peut-être un jour à trouver le chemin de ce cœur qui s'éteignait dans les larmes. Pouvait-il écouter les conseils de son oncle, se rendre au désir du roi? Tous ses sentiments se révoltaient à l'idée d'un abandon dont serait victime cette Henriette, vers laquelle une irrésistible sympathie l'entraînait. Il avait suffi qu'on lui parlât de mariage pour qu'aussitôt son amour se révélât à lui dans toute sa force. Et à partir de ce moment, il s'était décidé à faire part, à celle qui en était l'objet, de cet amour qu'il avait voulu taire jusque-là. Maintes fois, il avait retenu sur ses lèvres la confidence prête à s'en échapper, de peur que ces paroles d'amour ne vinssent froisser ce cœur où retentissait encore l'appel désespéré de Louise. Il s'était refermé dans cette tendresse discrète et silencieuse qui s'accroît chaque jour à la vue de l'objet adoré, aux douces paroles échangées, aux regards qui se rencontrent furtivement. Il se promettait à chacune de ses visites de laisser deviner la passion qui brûlait son cœur, et après chaque hésitation nouvelle, il s'en retournait plus épris que jamais, mais toujours aussi résolu. Tandis que le chevalier, par un sentiment de délicatesse, cherchait à dissimuler ses impressions et à commander à son amour, Henriette avait compris qu'il se passait en lui quelque chose d'étrange. Elle avait lu dans les yeux de celui qui s'efforçait de se renfermer strictement dans son rôle d'ami, de protecteur dévoué. Elle y avait distingué une expression qui la troublait sans qu'elle pût se rendre compte de la nature de ce trouble. Que savait-elle en effet de l'amour, elle qui n'avait jamais éprouvé d'autre joie, d'autre bonheur que la joie et le bonheur de se trouver avec Louise dans les bras de sa mère? Comment eût-elle pu définir que ce qu'elle ressentait pour le jeune gentilhomme n'était pas uniquement de la reconnaissance? Comment aurait-elle compris que si elle désirait le revoir chaque jour un peu plus tôt, si, lorsque l'heure marchant trop lentement à son gré, elle allait entr'ouvrir tout doucement la porte pour entendre le bruit de ses pas, ce n'était point uniquement afin d'apprendre si Roger avait enfin réussi dans ses recherches? Et cependant, elle ne pouvait se défendre d'une douce émotion lorsque Roger lui prenait la main qu'il pressait dans la sienne. C'est seulement lorsqu'elle apprenait, une fois de plus, le peu de succès des recherches faites en vue de retrouver Louise, qu'elle retombait dans la triste réalité. Le jour arriva où elle eut la révélation subite du genre de sentiment qu'elle accordait à Roger, et qu'effrayée de l'aveu qu'elle se faisait à elle-même, elle s'écria éperdue. « Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Je l'aime !» Ah, si la pauvre enfant n'eût pas été aux prises avec tous les chagrins que l'on sait, avec quelle douce confiance n'eût-elle pas attendu que Roger lui déclarât son amour? Avec quelle sincérité de vierge n'eût-elle pas répondu à cet aveu? Mais Henriette avait toujours présent le moment de terrible angoisse qui, chez elle, avait précédé l'enlèvement dont elle avait été victime. Elle les entendait sans cesse, comme dans un écho, les cris de détresse de Louise. Elle se rappelait que pendant que des misérables la séparaient violemment de sa sœur, la malheureuse aveugle, effrayée de ne pas recevoir de réponse à ses appels désespérés, s'était écriée d'une voix déchirante. « Seule ! Seule ! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Sans cette douleur, sans ce désespoir qui lui poignait le cœur, comme elle eût été heureuse de se sentir aimée. Comme elle serait allée au-devant des confidences qu'elle sentait suspendues aux lèvres de Roger, et qu'il ne demandait qu'un mot d'encouragement pour s'en échapper. Et depuis 3 mois que durait cette liaison si chaste, les deux amis, c'est le seul titre qu'il convient de donner aux deux êtres que le hasard avait mis en présence, en étaient à ce prologue d'un amour réciproque, tenu secret en dépit de son ardeur. Mais lorsque le chevalier de Vaudrey eut compris qu'il n'avait que rigueur à attendre de la part du comte de Lignières, lorsqu'après la scène violente qu'il avait subie dans le cabinet du lieutenant de police, le magistrat lui eut annoncé sa résolution formelle de l'obliger à se courber sous sa volonté, Roger avait décidé d'en finir avec une situation qui chaque jour menaçait de compromettre davantage Henriette. Son intention bien arrêtée était de s'ouvrir franchement de ses intentions à celle qui, hélas, n'avait plus personne à consulter pour accorder son cœur et sa main. Aussi, en se rendant auprès de la jeune fille, Roger marchait-il avec une agitation fiévreuse. Il lui en coûtait tant de répéter, pour la 100e fois, que ses démarches, de plus en plus actives, demeuraient sans résultat. Il n'osait avouer qu'il désespérait désormais de retrouver l'aveugle. Or, ce jour-là, dans sa précipitation à se rendre dans la maison de Madame d'Hervigny, le chevalier avait, sans y penser, rudoyé une vieille mendiante qui le poursuivait en lui demandant la charité d'un ton larmoyant. « Ayez pitié d'une malheureuse !» Il avait tourné brusquement le coin de la rue, et la fin de la phrase, le mot « aveugle » n'était pas parvenu jusqu'à lui. Il avait, en passant, et sans lui accorder un regard, frôlé la robe en haillons de la pauvre Louise. Il avait entendu ses soupirs, ses sanglots, et il s'était précipitamment éloigné d'elle, hâtant sa marche, afin d'arriver plus tôt auprès d'Henriette et de lui dire qu'il désespérait de retrouver jamais l'infortunée que le hasard venait de placer en face de lui.